Maya Kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Bien, que faire si votre enfant présente un trouble d'apprentissage? Vous savez, votre enfant peut être confronté à des difficultés d'apprentissage pendant sa scolarité. Il n'arrive plus à assimiler les connaissances qui lui sont transmises. Il peut s'agir d'un trouble d'apprentissage qui peut toucher plusieurs fonctions telles que le langage, la mémoire, la motricité, la communication, etc. Un véritable handicap qui peut conduire à l'échec scolaire. Quelle attitude avoir et quelle démarche entreprendre pour résoudre ce problème? Vous êtes dans cette situation, vous avez un enfant qui est dans cette situation, où vous avez des témoignages, vous voulez en savoir un peu plus, le standard est déjà ouvert, composez le 081-890-63-94. Bien, comme je vous ai, je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons deux invités dans ce studio, Madame Jessica Ikete, vous êtes orthophoniste, logopède, présidente d'Orthokine. D'abord, c'est quoi Orthokine?
Alors, orthokine, ça signifie orthophonie, orthopédagogie à Congo-Kinshasa. Okay. Donc, c'est une association qu'on a créée avec des parents, des professionnels de la santé, de l'éducation, de la communication, dans le but, en fait, justement, d'informer sur tout ce qui était trouble du langage, de la communication. Mm-hmm. Et comme vous l'avez dit, en fait, un trouble du langage, des apprentissages, de la communication qui n'est pas diagnostiqué précocement, ça peut amener, dans le pire des cas, en fait, à l'échec scolaire. Mmh. Et on a notamment donc...
Mais en passant, c'est quoi, quel est le travail d'un orthophoniste, logopède? Pouvez-vous nous expliquer,
clarifier?
Alors, en fait,
nous sommes spécialistes, en fait, de la rééducation du langage. Mmh. Donc, logopède, ça signifie langage. Et pède, ça signifie éducation. Orthophonie, donc ortho, signifie droit. Phonie, le son. Et donc, en fait, notre spécificité, c'est qu'on rééduque le langage. Langage oral, langage écrit, donc les apprentissages, mais pas que ça. Mmh. La déglutition, la voix. Donc, on peut même s'occuper, en fait, d'adultes qui ont des problèmes de voix ou d'adultes qui ont des problèmes d'AVC, etc. Et suite à un AVC, peuvent avoir des difficultés à communiquer, à s'alimenter. C'est très vaste, en fait. On s'occupe des enfants de la maternité jusqu'à l'âge adulte et la vieillesse. Mais notre spécificité, c'est vrai, chez Orthokine, tourne essentiellement autour des enfants, mais pas exclusivement, en fait.
D'accord. Alors, nous parlons aujourd'hui des troubles d'apprentissage. C'est quoi un trouble d'apprentissage?
Alors, communément, le trouble des apprentissages, quand on fait des recherches Google, etc., on trouve le mot 10, D-Y-S. Mm-hmm. Voilà, donc trouble 10. Et donc c'est plutôt une ancienne terminologie, mais un trouble des apprentissages, c'est une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie, donc 10 veut dire difficulté, donc trouble de la lecture, trouble de l'orthographe, trouble du calcul. Mais parmi les troubles 10, on retrouve aussi le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un peu les enfants qu'on qualifie de turbulents ou problèmes d'attention, etc. Voilà, c'est très vaste en fait.
Mais très vaste.
C'est très vaste.
Donc, parmi ces troubles, il y a les troubles de langage, les enfants qui ont des difficultés à s'exprimer correctement.
Oui, mais le trouble du langage, ça peut être aussi, j'insiste beaucoup, ça peut être aussi un trouble du langage écrit. Donc, la dyslexie est bien un trouble du langage, du langage écrit. Et voilà. Et puis, on a la dysphasie qui correspond plus à un trouble du langage oral. Après, ça peut amener des difficultés de langage écrit. Juste, ce que je voudrais dire vraiment, c'est que quand on a un enfant déjà petit, qui a des difficultés d'articulation, qui a des difficultés à construire les phrases, un manque de vocabulaire, etc. Ça peut déjà être des signes précurseurs, en fait, d'une future, on va dire, dyslexie, dysorthographie, trouble 10, en fait. Il faut être vigilant. On a déjà des signes précoces qui permettent de se dire, attention, cet enfant, voilà, il y a des choses à travailler avec lui, etc., pour éviter qu'il se trouve, en fait, en difficulté après dans le primaire.
Et généralement, quelles sont les causes à la base de ces troubles?
Alors, on a différentes causes, en fait. On a différentes causes. C'est clair qu'on retrouve, donc les 10, on les retrouve souvent dans des familles où il y a eu d'autres troubles, en fait. Mais donc, c'est dû un peu à des fonctionnements, on va dire, neuroatypiques. Et donc, dans des familles où il y a des 10, on peut trouver des autistes, on peut trouver des bègues, etc. Donc, bègues, donc bégaiement. Mmh. Voilà, donc on peut trouver pas mal de choses. Maintenant, ce qui est clair, c'est que on a des facteurs environnementaux, comme on dit, qui peuvent accentuer ces troubles. troubles. Donc, il faut être très vigilant pendant ne fût-ce que le suivi de grossesse d'une maman, parce qu'on sait que la naissance va être un moment même capital. Mmh. Voilà. Un souci à la naissance peut accentuer en fait des difficultés qu'il pourrait y avoir. Il faut faire attention à l'alimentation.
Une maman stressée, cela peut avoir de l'incidence sur...
Ça peut avoir de l'incidence, mais ce n'est pas la cause première. Voilà. Mmh. D'ailleurs, nous, quand on pose nos diagnostics, voilà, on va pas dire que le trouble 10 est dû par exemple à une éducation défaillante ou à un stress de la maman, parce que ça c'est vraiment culpabiliser même les mamans. Mmh. C'est l'enfant était bien prédestiné à avoir un trouble, mais tous ces facteurs là, le stress de la maman, l'alimentation, l'habitation là où il habite, etc., l'éducation qui a pu être défaillante, ne fût-ce que dans les méthodes d'apprentissage qu'on a pu lui donner à l'école, tout ça peut accentuer en fait les difficultés d'un enfant, d'un enfant 10.
D'accord. Nous avons également dans ces studios Madame Lili Mbouyi Kisimba. Vous êtes vice-présidente de Ortokin. Vous êtes parent. Alors dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivée à mettre en place ces structures Ortokin et quels sont les objectifs d'Ortokin?
J'ai été intéressée par Ortokin, surtout en tant que parent d'enfants ayant des troubles des apprentissages. Et le besoin était surtout pour nous de trouver des solutions au niveau local pour aider les enfants à progresser du mieux qu'ils le peuvent. Et surtout par Ortokin, en fait, nous apprenons, par les formations qui sont données, nous apprenons à prendre en charge aussi nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de spécialistes formés en troubles des apprentissages à Kinshasa. Et par l'association, en fait, nous apprenons à aider nos enfants, même si ce n'est pas de façon spécialisée, nous apprenons quand même à faire des exercices avec eux, à leur permettre de comprendre, de saisir un petit peu mieux le monde qui les entoure. Et je voudrais rebondir un petit peu aussi pour préciser, vous avez demandé pour les troubles quelle était l'origine. Ce sont des troubles neurodéveloppementaux. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement du cerveau qui ne se fait pas correctement. Il n'y a pas nécessairement une origine spécifique à ces troubles. Et d'ailleurs, on ne leur connaît pas d'origine spécifique pour l'instant.
Certains peuvent dire c'est de la sorcellerie. Ben voilà. Ça, on est en Afrique, les gens racontent beaucoup de choses.
Oui. Malheureusement,
vous avez certainement déjà entendu ces gens.
Oui,
de choses.
Malheureusement, en fait, c'est un petit peu lié à notre culture. En Afrique, on a besoin de trouver une origine ou une cause particulière aux soucis que nous rencontrons. Et donc, automatiquement, quand un enfant a un problème chez nous, c'est directement lié à quelque chose d'étranger à nous-mêmes. Et c'est comme ça que les théories de sorcellerie.
Alors aujourd'hui, quels sont les services que Ortokin rend aux parents qui ont des enfants en difficulté, qui ont des troubles et des apprentissages?
Alors, Ortokin donne des formations. Ça, c'est déjà un point très important. Vous avez au sein d'Ortokin, vous avez des prises en charge psychologiques. Vous avez des éducateurs spécialisés. Il y a Jessica qui est orthophoniste. Mmh. Et il y a donc d'autres orthophonistes qui travaillent en collaboration aussi avec Ortokin. Et mais c'est surtout par des formations qu'Ortokin travaille pour l'instant.
Bien, il y a déjà un auditeur qui nous appelle de Kanyoka, Kachai, nous allons l'accueillir tout à l'heure. Je reviens à vous, Jessica Ikete. Lorsqu'un parent constate que l'enfant a des troubles du langage, quelle attitude les parents doivent avoir et quelles sont les démarches à entreprendre pour aider son enfant?
Bah, je pense que la première attitude, c'est déjà d'en parler dans son réseau. D'en parler même à l'enseignant, donc à l'école, de savoir si l'école de l'enfant connaît peut-être des professionnels qui suivent des enfants en difficulté. Et quand je dis professionnels, j'insiste sur les professionnels de la santé d'abord, en sachant que les troubles du langage, les troubles spécifiques des apprentissages, c'est pas quelque chose de super connu, on va dire, ici en République démocratique du Congo, mais il y a quand même des gens qui se forment ou qui ont été formés, en fait. Voilà. D'ailleurs, donc, première démarche, je pense que c'est déjà de parler à son réseau. Après, de s'informer, notamment via les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on est étonné. Enfin, parfois, c'est étonnant, mais en fait, on a bien des professionnels. Donc, moi, j'ai découvert au final qu'on avait donc un neuropédiatre, donc, qui travaillait là exclusivement, donc, en Belgique et qui voyage, donc, sur Kinshasa, mais qui en réalité est un neurologue qui a débuté ici et qui a décidé de faire la neuropédiatrie. Il a notamment rejoint donc notre équipe. Et après, on a des gens qui sont allés se former aussi à l'extérieur au niveau des troubles spécifiques des apprentissages. Donc,
c'est là que dans nos universités ici, il n'y a pas une filière qui forme des logopèdes.
Alors, il n'y a pas
ici en RDC.
Non, il n'y a pas de filière qui forme des logopèdes, mais on va dire que certains médecins ont pu être informés sur certaines choses par rapport à la logopédie. Alors, du coup, logiquement, tout ça, tous ces troubles-là est censé être un diagnostic médical. Mais le problème, c'est que oui, je pense que les médecins sont peut-être pas suffisamment informés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels paramédicaux comme nous, en fait, formés à ces troubles, en fait. Et donc, un médecin, pour poser un diagnostic médical, il a besoin d'avoir des bilans effectués par, au minimum, le logopède orthophoniste. Et quand on soupçonne un trouble spécifique des apprentissages, en fait, ça se rencontre chez des enfants qui ont une intelligence tout à fait dans la moyenne. Et donc, normalement, ce serait aussi très important que l'enfant soit testé par un psychologue pour évaluer son fonctionnement intellectuel. Et j'insiste, des psychologues qui sont, qui ont en fait les codes culturels du pays. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que dans notre équipe, vous retrouvez des gens de différents horizons, mais vous allez voir que dans notre équipe, on retrouve souvent des noms congolais et des gens de la diaspora congolaise, parce que je pense qu'il faut être à même de sentir les codes culturels du pays, en fait.
Bien, que faire si votre enfant présente un trouble des apprentissages? On en parle aujourd'hui avec Madame Jessica Ikete. Elle est orthophoniste, logopède, et nous avons également Madame Lili Mbui Kishimba, vice-présidente d'Orthokin. En ligne, Kachai, depuis Kanyoka, Benjamin nous appelle des Kananga, Serge Loupépé, vous êtes à Kolwezi. Vous avez des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert, composez les 081-890-63-94.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité. Sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Identité culturelle, c'est tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Que faire si votre enfant a un trouble d'apprentissage? Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama, et bonjour à mesdames les invités.
Quelle est votre préoccupation?
Monsieur, je dis, j'ai deux cas de figure à soumettre à l'appréciation des invités selon les détails qu'elles ont développés sur les plateaux. Monsieur,
oui.
Je dis, nous avons deux jeunes garçons, l'un était sorcier. Intelligent à l'école avant qu'il ne soit sorcier, il s'adaptait, il se distinguait même.
Comment savez-vous que cet enfant est sorcier?
Bon, parce qu'il a avoué par la suite. Avec ce qu'il faisait à la maison, monsieur, je dis, vous pouvez vous réveiller, les habits sont partis, les sous-vêtements...
D'accord, on ne va pas aller plus loin. Alors, quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, qu'est-ce qui est arrivé, monsieur, je dis? Quand l'enfant n'était pas sorcier, il était cool. Mais jusque lorsqu'il a été ensorcelé, il a commencé à devenir inintelligent à l'école. Même là où il s'adaptait, des cours où il comprenait, donc c'était devenu difficile pour lui. Et cette situation-là nous a vraiment éblouis dans la famille et on ne savait pas quoi faire. Mais nous avons fait recours au pasteur. Quand le pasteur est venu, il a prié. C'était un abbé de notre paroisse. Il a prié. Alors, dans la foi, la sorcellerie est partie. Mais quand l'enfant est rentré à l'école, il ne savait pas encore réaliser 50%. Son conscient intellectuel était devenu au rabais. C'est ça la première difficulté. Je pense que les invités pourront quand même nous donner quelques orientations. Le deuxième enfant, monsieur, je dis, lui était malade de méningite. Il souffrait de méningite. un problème sérieux pour que l'enfant s'adapte à l'école. Quand il est à l'école, bon, là, je ne sais pas c'est quel mécanisme que l'enfant développait. Quand il est à l'école, il est malade. Lorsqu'il retourne à la maison, il est cool, monsieur Jody. Il n'a pas de problème. Il joue comme tous les autres enfants. On l'envoie, il part, il fait tout autre travail. Mais à l'école, il vous dit, je n'entends rien, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est ça au moins ce que nous avons connu. C'est pourquoi je voulais demander à l'invité. Je suis retiré ici à Kananga, je n'ai pas trouvé un centre d'encadrement des enfants qui ont des troubles d'apprentissage comme ça. Mais tout ce qui s'est fait, bon, je ne sais pas, c'est amener seulement les gens dans les centres néo-psychiatriques de Katwandi, ou soit la succursale qui est ici au centre-ville de...
Alors quelle est la question que vous adressez aux invités rapidement à Kachai?
Qu'est-ce que nous pouvons faire, mesdames les invités, avec les deux jeunes garçons qui nous causent des problèmes à la maison? L'un sorcier, il était intelligent, il ne sait pas maintenant rattraper son intelligence. L'autre souffre de méningite. Quand il est à l'école...
D'accord, on a compris, merci.
Quand il est à la maison...
D'accord, merci, merci d'avoir appelé Benjamin. Vous êtes aussi à Kananga, bonjour. Bonjour Benjamin. Il n'est plus là. On passe à Serge Loupépé de Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre préoccupation,
Serge? Content de suivre votre... Ma préoccupation est celle-ci. Si des géniteurs dont le groupe sanguin sont incompatibles, cela peut-il avoir une incidence sur le trouble d'apprentissage des enfants?
Ok, c'est la seule préoccupation ou bien il y en a d'autres?
C'est l'unique préoccupation que j'ai.
D'accord.
Je pense qu'au fil de l'émission, je pourrai intervenir d'une manière ou d'une autre.
Merci. Merci à Serge de Kolwezi. Madame Jessica, vous avez la parole.
À la première question, donc, le papa insiste en disant « mon enfant a perdu son intelligence ». Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, en fait, de perdre son intelligence. Il faut savoir déjà qu'il y a 8 formes d'intelligence. Après, le papa insiste sur « il a perdu son intelligence à l'école ». Maintenant, l'école développe 2 formes d'intelligence, essentiellement verbal, langage, logico-mathématique. Mais du coup, la question que j'ai envie de retourner au papa, c'est quels sont les talents de votre enfant? Parce que c'est impossible qu'il n'ait pas de talent. Soit il est très bon en sport, soit il aime la musique, peut-être qu'il dessine bien, etc.
C'est un bon bricoleur.
Voilà, c'est peut-être un bon bricoleur. Donc du coup, voilà, moi j'ai envie quand même de reposer la question papa, du coup, et de lui demander quels sont les talents de son enfant. Parce que ça me paraît impossible. On ne peut pas perdre, en fait, son intelligence. On a bien des tests qui sont là, objectifs, pour tester l'intelligence. Maintenant, on est OK, c'est assez coûteux, etc. Et ce n'est pas toujours adapté au cadre culturel. Mais c'est impossible. On peut perdre peut-être quelques petits points au niveau du quotient intellectuel. Mais devenir complètement inintelligent, ce n'est pas possible. Donc, du coup... Moi, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de l'enfant, comment se sent-il à l'école.
Est-ce que l'enfant n'est pas traumatisé à cause de cette histoire de sorcellerie?
Oui, et puis peut-être que on parle peut-être de sorcellerie, mais au final, il a peut-être un comportement qui est vraiment complètement dérangeant.
On parle de deux enfants, en fait, qui ont des problèmes totalement différents.
Voilà, c'est
ça. Celui qui présente, qui a eu des problèmes de méningite, on ne parle pas en général de troubles des apprentissages dans ce cas-là, parce que la méningite provoque des soucis au niveau du cerveau de certains enfants.
Ça, c'est une maladie qui doit être prise en charge.
Donc,
sur le plan médical.
Les troubles des apprentissages, en général, on en parle. Il faut qu'on ait écarté les autres diagnostics pour qu'il y ait troubles des apprentissages.
Maintenant, il arrive qu'un médecin demande quand même aux parents, donc au logopède orthophoniste, de réaliser un bilan avec cet enfant qui a eu méningite. Parce que la méningite donc atteint le cerveau et en effet le cerveau est le siège des apprentissages, du langage, de l'attention, de la mémoire. Et donc nous pouvons agir en tant que logopède orthophoniste à partir du moment où le médecin estime que voilà, estime que nous on pourrait agir. Et dans ces cas-là, c'est clair, c'est important de prendre contact logiquement davantage avec un neuropédiatre ou un neurologue qui a plus l'habitude de travailler avec avec des enfants et qui est sensibilisé à cette problématique en fait.
Et il faut quand même pouvoir répondre au papa qui a un souci par rapport parce que c'est vrai que nous ne rentrons pas dans les considérations spirituelles sur les origines hein, mm-hmm. des différents troubles, mais l'enfant présente peut-être, et ça c'est au papa, de voir dans quelle mesure l'enfant peut être suivi et testé pour voir, il y a probablement des difficultés, des troubles qui se présentent à lui qui n'ont rien à voir avec les suspicions de sorcellerie mm-hmm. Qui se posent sur cet enfant.
D'accord. Avant de répondre à Serge Décolosi, on va accueillir Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody et bonjour bien évidemment à nos invités.
Bonjour.
Nous saluons hein, la pertinence de ce sujet ô combien important. Vous savez, en cette matière, bon, vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens semblent vraiment prendre la facette sorcellerie, c'est ce qui semble primer, mais nous devons connaître que c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants sont sur la rue. Alors, nous devons, en principe, hein, il faut nécessairement que l'État congolais, via le ministère et en charge, n'est-ce pas, l'enseignement, bien évidemment, primaire et secondaire, voire même universitaire, doivent se mettre ensemble. Question de pouvoir, n'est-ce pas, tailler un programme. Vous savez, lorsque les enfants viennent, par exemple, à l'école, je vous donne un exemple. Vous avez un enfant qui ne parle pas, qui a un problème de langage, qui a commencé par parler à partir de la maternelle, mais arrivé au niveau primaire, il a des problèmes de langage, et vous trouvez que ces enfants, cette catégorie d'enfants, sont presque, voilà les caractéristiques que nous trouvons. Ces enfants, quand ils arrivent, par exemple, un enfant qui doit apprendre, il a des problèmes de langage. Il parle, mais pas tellement. Mais vous allez vous rendre compte que cet enfant va se retrouver d'abord marginalisé. Et deuxièmement, il aura des problèmes d'intégration vis-à-vis de ses amis. Alors, vous allez voir qu'il faut normalement que les enseignants qui encadrent ces enfants-là soient totalement outillés et formés. Mais je regrette, nous avons été à l'université, par exemple à l'Institut supérieur. Je n'ai pas vu un programme spécial sur ce point, parce que normalement, un enseignant doit être formé sur tous les plans, comment il doit s'y prendre aujourd'hui. Alors, je suis en train de voir qu'aujourd'hui, quand nous parlons, l'enseignant qui a fait les niveaux secondaires jusqu'en sixième, bien qu'il a fait la pédagogie, n'est pas totalement outillé. Alors, au-delà de ça, il faut organiser chaque fois des ateliers pour former les enseignants. Il y a des gens qui arrivent, mais ils ne savent pas et donc gérer le problème dans des classes, par exemple. Un enfant pareil, il faut savoir que non, il faut l'encadrer correctement. Parce qu'il y a, d'abord, il est tellement colérique, ça c'est l'une des caractéristiques, et il sera totalement, il ne sera pas content tout le temps. Il faut chercher du temps pour pouvoir, n'est-ce pas, réintégrer cet enfant. C'est pourquoi j'en ai interpellé le ministère et en charge pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser quelque chose en ce sens. Pourquoi mm-hmm. pas mettre sur pied donc un domaine spécial pour pouvoir former tous ces enfants et les encadrer. Et il y a même des parents, quand ils ont ce talent d'envoyer leur enfant, c'est pour que l'enfant soit totalement encadré.
D'accord. Merci Jérémy de Lubumbashi. Merci. Merci. On va donner la parole à François qui est dans la même ville, à Lubumbashi également. François, bonjour.
Bonjour mon frère et bonjour à toute la grande équipe de la radio au quartier.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation, François?
Oui, je voulais juste intervenir concernant ce que notre ami, notre auditeur, vous avez dit, qui a appelé, qui a dit qu'il a deux enfants.
L'un est sorcier, l'auditeur de Kanyoka, oui.
De Kanyoka, évidemment.
Oui.
Je voulais lui dire que lorsqu'un enfant brillant, d'un coup là qu'on ait un problème, la première des choses, on doit savoir les pourquoi, comme lui était en train de se demander, c'est normal, mais on ne peut pas déjà accuser de sorcellerie, de ceci, parce que le problème à l'école peut être influencé par le comportement des parents à la maison, ça nous ignorons beaucoup. Donc lorsque les parents sont en conflit, l'enfant est en train de vivre cela. Et le rendement scolaire va connaître, il y aura des conséquences négatives hein, sur le rendement scolaire, comme Oui, oui. Là, il ne faut pas d'abord parler de la sorcellerie. Hein, donc là, il faut se corriger, donc voir un peu qu'est-ce qui a fait que même à l'école, si moi j'ai un enfant comme ça, je vais appeler les parents pour dire, l'enfant qui était brillant, comment d'un coup là, il commence...
Il travaille plus bien.
À baisser un peu, il ne travaille plus bien.
Mmh.
Donc les causes sont à chercher, et à la famille, et dans la famille, et c'est après, c'est là qu'on peut chercher... Donc les raisons ailleurs.
D'accord, merci.
Les parents pensent que
oui.
lorsqu'ils sont en train de se brouiller entre eux,
oui.
ça n'a pas de conséquences.
Merci François.
Effectivement, il y a des conséquences.
D'accord, merci oui. François de Lumbashi. On va donner la parole à Cédric Mamona qui nous appelle de Kinshasa. Cédric, bonjour.
Oui, bonjour Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux troubles des apprentissages?
Bon, je voulais juste poser à l'invité... On voit souvent quand la jeune fille grandit, bon, si elle arrive au l'âge de la puberté, elle a changé un peu, si elle était intelligente, elle diminue un peu. Raison pour laquelle je voulais demander quel est l'effet de l'orthophonie, c'est une fille qui passe à l'âge de la puberté.
Vous dites que quand une fille atteint l'âge de la puberté, son intelligence baisse?
Oui, à l'âge de la puberté, on voit un peu le changement chez la jeune fille.
D'accord, merci. Les invités vont répondre. Madame Jessica, vous avez la parole.
Alors, je vais répondre. Donc, il y a une personne qui a parlé de formation des enseignants, etc.
Mm-hmm.
C'est clair, c'est hyper important. En fait, quand un enfant est en difficulté scolaire, de toute façon, il y a un triangle. Il y a un travail avec les parents, un travail avec les enseignants, le travail avec les professionnels. Formés à tout ça, donc souvent de la santé, mais il y a des professionnels de l'éducation aussi, etc. Voilà, qui encadrent en réalité l'enfant. Ça me paraît être le plus important, en fait.
Mmh.
Ça me paraît vraiment être le plus important. Et donc, c'est vrai que nous, chez Orthokin, c'est pour ça qu'on a misé sur les enseignants. Maintenant, c'est
Et
clair.
Vous les formez déjà? Vous formez quelques enseignants?
Alors oui, on intervient dans les écoles. D'abord, on informe. Souvent, à la demande des parents, les parents viennent pour un enfant en difficulté, on fait un bilan et donc on constate que c'est bien un trouble spécifique des apprentissages ou un trouble du langage et de la communication. Et c'est comme ça qu'en fait, on se permet au final d'entrer en contact avec l'école. Et puis plutôt que de parler qu'à l'enseignant de l'enfant, nous on préfère parler au final à toute l'école pour justement sensibiliser sur cette problématique des troubles qu'on peut rencontrer. En fait, ce sont des enfants, les enfants que nous prenons en charge, ce sont des enfants à besoins spécifiques, enfants à nécessités spécifiques. Et on se rend compte que dans les enfants à besoins spécifiques, qui peuvent se retrouver en difficulté scolaire, au final, on n'a pas que les enfants avec des troubles 10. Un enfant drépanocytaire, par exemple, qui est malade, il est aussi à besoins spécifiques. Et donc, du coup, ça arrive que des parents aient pu même faire le voyage, même de Lubumbashi, pour un enfant qui est drépanocytaire et pour se demander un peu qu'est-ce qu'il en est, en fait, au niveau des apprentissages. Est-ce que la maladie peut avoir un impact, au final, sur l'attention, etc., les apprentissages. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui rentrent, au final, dans ce qui s'appelle enfant à besoins spécifiques et... Mmh. Bah, c'est clair qu'on doit tous travailler en collaboration et c'est clair qu'on ne peut pas, se comporter de la même façon avec chaque enfant. Et donc nous, notre défi au sein d'Orthokin, c'est aussi en fait de profiter au final des enfants qui sont en difficulté pour amener des changements pédagogiques dans les écoles. Parce que, en réalité, un enfant avec un trouble spécifique des apprentissages, j'insiste bien, c'est un enfant avec un potentiel intellectuel tout à fait dans la norme.
Mmh.
Après, on constate aussi qu'il y a des enfants avec des déficiences intellectuelles légères, en fait, qui peuvent très bien rester aussi en école ordinaire. Et donc, en fait, le fait d'avoir un enfant en difficulté, c'est en réalité une bénédiction, en fait, dans une classe. Parce que l'enseignant va être obligé d'adapter son enseignement à cet enfant en difficulté, mais en réalité, ça va être bon pour tous les enfants.
Mmh.
Parce qu'on est obligé de proposer du coup des méthodes plus actives, multisensorielles, qui vont dans le concret, etc. Et c'est pour ça que nous, dans notre équipe au sein d'Orthokill, on a une enseignante qui est formée en IB, baccalauréat international, parce que la vision des anglophones, c'est justement de se dire que l'enfant petit, au final, on l'aide à se développer pour devenir plus tard grand et en réalité exprimer son talent et avoir un travail qui va lui permettre en fait d'être inclus dans la société et de se sentir bien. Mmh. C'est plus une pédagogie de talent en fait. Et donc voilà. Nous, c'est un peu ça qu'on veut amener, c'est des changements pédagogiques par le biais de nos
sans
enfants.
Sans oublier, Tokin travaille sur le volet parental aussi.
Oui, on travaille vraiment sur le volet parental.
Alors, Madame Lily, vous avez suivi, Jérémy a parlé de ses enfants qui sont marginalisés, il y a des difficultés d'intégration à l'école à cause de tout ça. Alors, comment, à votre niveau, vous travaillez pour résoudre ces problèmes-là?
Déjà, j'ai commencé par suivre des formations. C'est ce qui est très important, c'est de reconnaître, moi je ne suis pas un professionnel de la santé, et donc il a fallu que je sois formée. Et justement, la rencontre avec des personnes comme Jessica m'a permis d'avoir une meilleure connaissance des troubles. Et c'est important, au-delà de la formation des instituteurs, des professeurs, que les parents se forment. Parce que une grande part du travail se fait à la maison. Les enfants qui ont des difficultés ont besoin de beaucoup d'assistance à la maison et donc les parents se doivent absolument de suivre des formations pour pouvoir aider au mieux leurs enfants.
Après, je ne vais pas cacher la chose, c'est que j'ai vraiment essentiellement misé aussi sur les parents en arrivant. Pourquoi ? Parce que les parents, ils sont hyper motivés et donc ils se forment. Et ils se forment aussi bien, en fait, et même mieux que les professionnels. Et le fait d'avoir des parents informés, bah, au final, un médecin, il peut pas non plus lui raconter n'importe quoi. Un enseignant ne peut pas raconter n'importe quoi. Mmh. Et du coup, ça crée une dynamique où tout le monde a envie de se former au profit de cet enfant en difficulté, etc. Et donc, au final, des autres enfants, parce que on découvre des tas de choses, en fait. Il y a beaucoup d'outils hyper intéressants pour tout le monde.
Donc, quand un enfant a des difficultés, de langage, il faut d'abord venir consulter un logopède, c'est ça?
Alors,
la démarche à suivre.
Ici en République démocratique du Congo, souvent les parents font ça, mais normalement la démarche c'est de consulter, dans la logique des choses, ça aurait été bien que le parent consulte un médecin spécialisé là-dedans, pour que le médecin prescrive en fait un bilan. Et puis du coup, nous en tant que logopède, on fait le bilan, on propose des examens complémentaires. C'est vrai que moi, je conseille souvent aux parents des examens complémentaires. Et puis du coup, il y a quand même un médecin qui chapeaute l'enfant, parce que l'enfant doit vraiment être vu par un médecin. Et c'est comme ça qu'on a développé aussi l'idée de carnet de santé, carnet de développement de l'enfant, parce qu'un enfant en difficulté, il doit être vu régulièrement. C'est minimum une fois, voire deux fois par an. C'est pas un psychologue qui pose un diagnostic médical, c'est pas un logopède orthophoniste, voilà, c'est pas un enseignant, c'est un médecin. Et donc c'est très important qu'un enfant avec des difficultés d'apprentissage soit vu par un neuropédiatre. Enfin, c'est plus spécifiquement un neuropédiatre, mais en tout cas par un médecin. Parfois,
qui,
ça peut être
qui centralise en fait toutes les informations données par les autres spécialistes.
Voilà.
D'accord. Alors, pour votre cas, Madame Lily, vous avez peut-être des enfants qui ont des difficultés d'expression. Comment vous faites Vous avez été formée et comment vous suivez l'enfant régulièrement à la maison? Quels sont les exercices auxquels vous soumettez l'enfant pour l'aider à s'améliorer au jour le jour?
Déjà, je dirais, je n'ai pas été formée. Je continue.
Vous êtes toujours en formation.
On est en formation perpétuelle et permanente. Déjà, tout dépend des troubles que l'enfant présente. On ne peut pas donner un modèle ou un schéma.
Je parle des troubles du langage, par exemple.
Mais il y a beaucoup de troubles du langage.
Il y en a plusieurs. Nous, en tant que parents, nous appliquons en fait ce qui nous est demandé par les spécialistes qui prennent en charge les enfants.
En fonction du diagnostic qui a été posé.
En fonction du diagnostic qui a été posé, les spécialistes nous demandent de nous orienter de telle ou de telle façon. Et nous ne faisons que mettre en application, on ne crée pas des solutions miracles. Nous mettons simplement en application les orientations qui nous sont données par les spécialistes.
Donc moi, personnellement, j'utilise un outil lors de mes bilans, ou quand je parle les premières fois avec les parents, je dessine une maison, en fait, qui montre comment le langage et les apprentissages se construisent, en fait. Parce qu'il y a des fondations à construire. Il y a notamment la mémoire, les jeux, c'est important de jouer avec les enfants. Il y a les gestes de la vie de tous les jours, pouvoir s'habiller, faire des lacets, etc. Tous les gestes, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de fondations à construire pour que le langage se développe. Après, dans le langage, il y a beaucoup de choses. Il y a pouvoir rentrer en contact avec les autres, avec l'adulte, avec l'enfant, avec les autres enfants. Un tout petit enfant, déjà, même un bébé, il communique communique, en fait. Un bébé communique depuis la naissance. Alors, du coup, y a des choses qu'on apprend aux parents. C'est-à-dire qu'un enfant, il doit pouvoir pointer du doigt avant de pouvoir parler. Culturellement, c'est vrai qu'on a tendance à pas le faire. Or, un enfant, pour communiquer, a besoin de pointer du doigt. Regarder l'adulte dans les yeux. La maman ou la nounou doit être attentive à la même chose que l'enfant au même moment pour que l'enfant ait envie aussi de communiquer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on construit. Après, en effet, il y a le vocabulaire, il y a peut-être bien articuler les sons. Mmh. Et donc, bien articuler les sons, ça nécessite aussi de, par exemple, chanter avec les enfants. L'importance des comptines, du rythme, etc. Tout ça, c'est important.
Et il y a des codes culturels, en fait, qui nous empêchent d'accéder, comme elle a parlé du regard. Hein. Mmh. En Afrique, en général, un enfant ne regarde pas un adulte dans les yeux. Pourtant, auprès des spécialistes, ce sont des signes qui peuvent alerter sur certains troubles. Aussi, un enfant n'est pas censé pointer du doigt. En Afrique, on trouve ça mal poli.
Ah, oui, bien sûr.
Pourtant, ça fait partie des signes qui peuvent alerter les spécialistes quand il y a un souci.
Bien, Kéfer, si votre enfant présente un trouble d'apprentissage, on en parle aujourd'hui. Donc, Happy Service, nous avons Aline Ben qui nous appelle de Kananga. Dona, vous êtes à Bukavu. Chikom Poutou est à Mbandaka. Ben de Kananga, bonjour. Et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la question. Je salue la pertinence de ce sujet. Comme je fais partie de la faculté psychologique, donc je profite d'abord de poser à nos invités cette question en matière de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un enfant qui a grandi avec les troubles des apprentissages, notamment la dyslexie, et à l'âge d'adulte, est-il possible de lui soumettre à un encadrement psychologique pour qu'il soit encore traité? C'est ça et ma propre préoccupation.
Merci. Dona, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour aux invités du jour. Et c'est un plaisir le plus partagé d'intervenir à ce sujet du jour.
Bien, quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai deux petites questions à poser à nos invités avant de demander un conseil. Bon, est-ce que le trouble d'apprentissage, c'est une maladie qui se produit à un moment où c'est une maladie à caractère inné? Pour ce qui cause à ce que je pose, c'est deux petites questions. Je suis parent de 5 enfants. Ma fille est née quand elle était encore dans l'âge inférieur. Il me posait des questions là concernant la vie. En tout cas, vous pouvez comprendre que l'enfant cherche l'éclaircissement de la réponse de la question qu'il a posée. Donc, quand il était parti à l'école, son enseignant me disait que non, automatiquement l'enfant n'est. Donc, il n'accepte même pas quand on lui pose la question d'aller résoudre, par exemple, un exercice au tableau, de lire, tout ça. Elle refusait catégoriquement. Mais quand elle arrive à la maison, parce que je suis aussi pédagogue, quand je faisais l'étude à mes enfants, elle est toujours capable de répondre effectivement et convenablement aux questions quand je la pose des questions. Mais alors, la question est que je me demande, parce que quand j'ai entendu ce sujet du jour, j'étais intéressé. Bon, quel mécanisme je peux utiliser pour que l'enfant s'adapte de telle manière à l'école, de la manière dont il se comporte à la maison?
Merci. L'enfant pose des questions à ses parents à la maison, mais à l'école, l'enfant n'arrive pas. Lorsque l'enseignant lui demande quelque chose, l'enfant ne sait pas répondre. Voilà. C'est cela la préoccupation. Chico Mputu, vous êtes en Mbandaka, bonjour. Chico, vous êtes en ligne depuis Mbandaka? Chico n'est plus là. On va accueillir Alain de Lubumbashi, bonjour. Alain aussi?
Bonjour. À nos deux invités. Je suis là.
Ah, d'accord. Alain, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux troubles des apprentissages?
Oui, ma contribution va dans le sens de sensibiliser plus les parents. Et je crois que l'âge scolaire
c'est 6 ans et 3 ans pour la maternelle. Mais les troubles peuvent se remarquer aussitôt parce que l'enfant commence à parler. Il y en a qui parlent même à une année et demie, 2 ans. Alors à ce moment-là, si les parents sont attentifs à l'évolution de l'enfant, ils détecteront directement que mon enfant peut présenter tel ou tel autre problème à l'âge scolaire. Il y a par exemple un cas concret, les enfants qui sont sourds-muets, par exemple. Ce ne sont pas des enfants à inscrire dans les écoles ordinaires. À Kanangalaba, il y a un centre qui s'appelle Pandilu, qui encadre les enfants sourds-muets. On leur aide à développer d'autres talents, tels que la cordonnerie, la menuiserie, ainsi de suite. Moi-même, j'ai une belle sœur qui est sourde-muette, mais qui aujourd'hui sait lire et écrire, et elle est couturière, elle a fait la coupe de couture. C'est ainsi que je voulais poser la question à nos deux invités. Il leur arrive parfois à orienter les parents dont les enfants sont, par exemple, incapables d'évoluer dans des classes ordinaires où les enseignements sont terribles, et donc verbalement, lorsque l'enfant a les problèmes d'audition. Est-ce qu'il leur arrive de les orienter dans des centres de formation des métiers tels que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, Pandula Kananga?
D'accord.
Deuxième préoccupation pour chuter.
Oui.
Oui. Est-ce que l'orthoptiste est tellement à Kinshasa, mais le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Il n'y a pas moyen d'étendre ce genre de...
Les activités d'orthoptiste partout à travers la République. D'accord. Alors, on va poser la question aux invités. Merci. Chikon Poutou d'Mbandaka, bonjour.
Bonjour, Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux troubles des apprentissages?
Oui, en fait, j'allais demander aux invités, il peut arriver qu'un enfant naît avec un problème de la langue. Bon, je ne sais pas à quel âge qu'on va commencer à aider l'enfant à parler, afin qu'il y ait la langue et que l'enfant ne puisse pas avoir des problèmes de la langue.
Et aussi, alors, quand vous parlez des problèmes de la langue, de quoi il s'agit exactement?
Si l'enfant a un retard
de langage.
De parler.
Ok.
Et en fait, j'allais demander aussi par jour, il faut combien d'exercices? S'il y a un nombre vraiment que si on dépasse cet exercice, vraiment l'enfant aura du mal, ou soit que si on est au-dessus de ces chiffres, l'enfant aura encore du mal. Il y a un nombre fixé, peut-être on fera 20 gestes ou soit 30 gestes par jour, si les invités peuvent me parler.
D'accord, Madame Jessica Ikete, vous avez la parole.
Alors, je pense que le monsieur qui évoque le problème de langue, ça doit vraiment être le problème de la langue à placer au palais, etc. Donc, il parle certainement d'une brièveté du frein de la langue, en fait. Ça, c'est des choses qu'on peut déjà observer, déjà, même à la naissance, en fait. Si bien qu'il y a des médecins qui décident de faire une frénectomie, c'est une opération dès la naissance, en fait, parce que en effet, il y a des enfants qui ont du mal à s'allaiter, qu'on a du mal à allaiter, etc., à cause de ça. Maintenant, il faut savoir que là, vous m'entendez parler, moi-même, j'ai une brièveté du frein de la langue et je n'ai pas du tout de problème d'articulation, parce qu'en réalité, oui, c'est vrai qu'on peut techniquement donc travailler sur ce frein de la langue, etc., en proposant des exercices. Donc, les exercices que monsieur notifie, c'est en effet, c'est des exercices de musculature de la langue, mais du reste, voilà. Et en effet, en général, on doit faire 3 séries d'exercices par jour, 10 mouvements. Mais ça, c'est très technique. Et c'est pas ça qui peut expliquer le pourquoi un enfant a une difficulté de langage global. Ça peut expliquer un problème d'articulation, mais pas un problème de communication ou un problème de langage général avec souci de vocabulaire, construction de phrases, etc. Ça entraîne plutôt des troubles orthodontiques, parce que c'est vrai que les orthophonistes, logopèdes orthophonistes s'occupent aussi des enfants qui ont des dents pas bien placées, etc. Mais ça, c'est encore un autre domaine de l'orthophonie. Alors, je voudrais aussi rebondir sur la personne qui parlait des sourds-muets. Il faut savoir que les personnes malentendantes, elles sont pas forcément muettes. C'est juste un problème de... Donc, il y a une problématique, en effet, liée au pays. C'est que tout le monde n'est pas formé dans la démutisation des enfants sourds. Et puis, tout le monde n'a pas accès aux prothèses auditives, parce que même quand on est sourd, il y a quand même encore du résiduel. C'est comme ça qu'on dit. On peut quand même entendre certaines choses. On a même, moi, j'ai même déjà des enfants malentendants qui pouvaient me répondre au téléphone. Et après, voilà, il y a des choses qui s'installent, des implants, etc., qui s'installent ici en Afrique. Mais donc, un enfant qui est sourd, C'est pas vrai qu'il peut pas parler. Il peut lire, en fait, sur les lèvres, etc. Et on apprend notamment la lecture labiale. Mais c'est vrai, c'est un entraînement, beaucoup de travail, d'accompagnement aussi des parents, des enseignants, etc. Mais justement, un enfant qui est malentendant, quand il est petit, c'est très, très important qu'il aille en maternelle. Et c'est très important qu'il puisse être, notamment avec des enfants qui n'ont pas de difficultés de langage. Et oui, nous, chez Orthokin, il arrive qu'il y ait des catégories d'enfants, en effet, où on propose aux parents, en tout cas, une orientation vers des centres professionnels, etc. On est ouvert à tout.
Orthokiné est pro-inclusion.
Voilà.
Mais dans certains cas spécifiques, il vaut mieux que les enfants soient orientés dans le cycle spécialisé pour une meilleure prise en charge.
Simplement, voilà, je suis convaincue qu'il n'y aura pas du jour au lendemain assez d'écoles spécialisées pour accueillir tous les enfants à besoins spécifiques.
Oui, on a même suivi quelqu'un demander de Lubumbashi que le gouvernement s'implique, que le ministère de l'Enseignement s'implique pour la prise en charge de ces gens de catégories d'enfants.
Et ça commence par la formation.
Oui, par la formation. Mmh. Et c'est pour ça que nous, on prône en fait l'inclusion scolaire pour une catégorie d'enfants, parce que nous sommes convaincus que ça amènera des changements pédagogiques pour tous les enfants, en fait, en gros. Ce sera bénéfique pour tous les enfants. Il y a un psychologue aussi qui a posé une question sur lui, qu'est-ce qu'il peut faire en tant que psychologue?
Alors, un enfant qui a un problème de dyslexie.
Oui, voilà. Alors, en effet, les psychologues, il y a une branche de la psychologie qui s'occupe en fait des enfants en difficulté, notamment tout ce qui est orthopédagogie. C'est pour ça qu'on a appelé orthokin, orthophonie, orthopédagogie, parce que les orthopédagogues cliniciens, on en a un ici à Kinshasa, s'occupent justement des enfants en difficulté d'apprentissage. Alors le mieux à faire, je pense, donc pour ce psychologue, c'est de chercher un maximum d'infos, de nouveau, enfin sur internet, etc., d'entrer en contact avec nous s'il le souhaite. Nous, on donne en tout cas un maximum d'infos comme on le peut. Mmh. Voilà. Et on guide comme on le peut les professionnels qui ont envie, qui sont intéressés et qui sont ouverts à cette problématique.
Il y a eu une question sur les jeunes filles.
Oui, madame Lily. Voilà, justement, je voudrais revenir sur ça. Lorsqu'une jeune fille atteint l'âge de la puberté, le quotient intellectuel baisse, d'après Cédric de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Vous m'excuserez de rire un petit peu, mais il est de toute façon démontré dans plusieurs études que les jeunes filles à l'école ont tendance à avoir de meilleurs résultats que beaucoup de jeunes garçons. Donc je pense que ce n'est pas démontré.
C'est pas fondé, quoi.
Voilà, ce sont des propos qui n'ont pas de fondement ni scientifique ni dans aucun autre domaine.
D'accord. Il y a eu également la question des donneurs de Bukavu. Il dit que l'enfant, à la maison, l'enfant lui pose des tas de questions. Mais lorsque l'enfant arrive à l'école, l'enseignant pose des questions, l'enfant ne parle pas, et puis c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut aider cet enfant-là, madame Jessica?
Ben, en fait, moi, je ne suis pas à l'école avec cet enfant, et je me pose la question de la motivation. Et de nouveau, peut-être que l'enfant s'ennuie tout simplement en classe, c'est possible, ou ne se sentent pas bien dans l'environnement de
ça
la classe.
Ça peut être aussi une question juste de tempérament,
oui,
de l'enfant.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, je pense que le plus important, c'est de questionner l'enfant et à savoir que l'enfant, il ne va peut-être pas raconter des mensonges, il va peut-être raconter la vérité sur son ressenti par rapport à l'école. Et moi, je me dis que si l'enfant fonctionne bien à la maison avec son parent qui est pédagogue ou fonctionne bien avec d'autres personnes, alors il n'y a peut-être pas de... Comment vous dire? En réalité, il n'y a pas de vrai problème, peut-être, chez l'enfant.
Voilà. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas de vrai... Alors, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Il faut aller voir un psychologue.
Mais c'est peut-être pas un psychologue,
oui,
déjà, engager la conversation avec...
Ça peut être
avec...
aussi juste de respecter le tempérament de l'enfant. Hein. Il y a des enfants qui sont moins bavards que d'autres, et donc... je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre une pression inutile qui pourrait mettre l'enfant encore plus en difficulté à l'école.
Peut-être que c'est un enfant, parce que quand le parent nous dit l'enfant ne parle pas en classe, etc., ça peut évoquer tellement de choses qu'on ne peut pas répondre, en fait. On n'a pas assez d'éléments pour pouvoir répondre.
Et répondre à cette préoccupation-là. Et voilà, et puis Alain de Lubumbashi dit qu'il faut beaucoup plus sensibiliser les parents. Alors, déjà, au niveau d'Orthokin, vous travaillez avec... vous avez déjà eu à consulter combien d'enfants qui ont des problèmes de langage, et puis vous travaillez avec peut-être un réseau des parents. Dites-nous comment ça fonctionne, madame Jessica.
Alors, quand je suis arrivée à Kinshasa, en effet, enfin les premiers enfants que j'ai testés, etc., c'est parce que sont
en provenance de la Belgique.
En provenance de la Belgique, France, même voilà, les deux un peu Belgique, France. C'est des parents qui étaient déjà entrés en contact, même avec moi, via les réseaux sociaux. Du coup, on a mis en place un événement de sensibilisation, etc., au niveau de l'école Les Amis de Daniel, qui est une école spécialisée. Mmh. Et donc, on a créé notre premier événement qui s'appelait Matinée Langage, en fait, où on a volontairement parler de cette problématique des troubles des apprentissages. C'était « Allô docteur, mon enfant n'aime pas l'école », justement le thème. Et donc suite à cela, en effet, des parents donc nous ont contactés, etc., pour des bilans qui se sont faits donc en interne au niveau de l'école. Et on va dire que depuis cette période, je pense que nous avons testé à peu près 500 enfants. 500 enfants, et on a déjà fait 3 éditions de la matinée langage où on a rencontré des parents. Beaucoup de parents, mais pas exclusivement. Des enseignants, des professionnels de santé, mais souvent des enseignants et professionnels de santé qui en réalité étaient eux-mêmes sensibilisés parce qu'ils ont été confrontés aux mêmes problèmes pour leur enfant, en fait.
Alors les parents, voilà. Peut-être vous avez suivi quelqu'un des Kanaka, dit pourquoi vous êtes concentrés à Kinshasa alors qu'on a aussi des besoins ici. Alors quels sont les moyens par lesquels les auditeurs peuvent vous contacter, entrer en contact avec Ortokin?
Alors, donc, pour entrer en contact, nous avons choisi donc plutôt les réseaux sociaux, donc notamment Facebook. Voilà, donc il y a une page qui s'appelle orthokin.fr, parce que ça fait référence quand même à la francophonie, parce que Orthokin est affilié à la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. On a vraiment une réelle mission ici en Afrique. Et après, donc, de orthokin.fr, en effet, on peut retrouver mon profil, Jessica Ikete Orthokin. Et puis, je place les gens dans différents groupes, en fait. Il y a beaucoup de groupes. Il y a l'U d'Orthokin, où c'est des activités qu'on peut faire avec les enfants à partir du matériel maison. Il y a accès à un groupe qui s'appelle Orthokin Info, c'est tout ce qui est formation en ligne, même gratuite. Journée du livre, c'est des livres en PDF sur le thème et tout.
Mais c'est quoi l'adresse Facebook de Orthokin.fr?
Oui, c'est Orthokin.fr.
Dès que vous tapez Orthokin.fr,
voilà,
vous retrouvez.
Vous retrouvez.
Bien, Madame Lily, on est presque arrivé à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ont des enfants qui présentent des troubles des apprentissages?
Déjà, moi, j'invite les parents à être vraiment derrière leurs enfants. La plupart du temps, nous avons la responsabilité de les motiver. Parce que les enfants qui ont des troubles des apprentissages, très souvent, moralement, sont démotivés et justement ne veulent pas travailler parce qu'ils s'estiment plus faibles que les autres. Mmh. Le rôle des parents est de motiver ces enfants, ne pas les décourager et leur dire qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose. Et ça, c'est très important. C'est la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est vraiment ça. Il faut motiver les enfants.
Bien, merci.
Et beaucoup travailler et jouer avec.
Ok. Oui, madame Jessica, rapidement.
Alors, j'invite en tout cas tous les parents à faire une recherche sur Internet où ils inscriront 10, les 10 célèbres. Parmi les 10 célèbres, on a des présidents, on a des gens très éminents, on a Bill Gates, on a le président des États-Unis, etc.
D'accord.
Donc, allez-y.